17h sur France Culture, heureuse de vous retrouver pour le deuxième numéro de ce nouveau rendez-vous en français dans le texte.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Giespère.
Bonjour à tous. Parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner au printemps dernier les plus belles pages de la littérature française, à vous les faire écouter et réviser pour ceux qui ont moins de 18 ans, nous vous proposons de continuer l'aventure tous les samedis à 17h et de faire revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi parfois philosophique et historique, lus par de grands comédiens et analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette lecture sera désormais prolongée tous les samedis autour de 17h30 d'une grande dictée menée par Rachid Santaki, entouré de deux amoureux de la langue. Ce soir, l'un est critique littéraire, Alexis Broca, et l'autre est cinéaste. Il a quitté son bureau des légendes pour rejoindre la table d'En français dans le texte. C'est Éric Rochant. En français dans le texte, à écouter tout de suite sur France Culture, à partir de 17h30 en Facebook Live ou à retrouver plus tard en podcast sur franceculture.fr. Aujourd'hui, le malade imaginaire de Molière. Une farce, une très bonne farce même, une pièce écrite par Molière pour divertir son public. Peut-être l'avez-vous déjà étudiée, au collège, avant même le lycée où elle est au programme cette année. Jugée plus facile, avec moins de niveau de lecture ou de profondeur philosophique, que Don Juan, Tartuffe ou encore le Misanthrope. Créé en 1673, le malade imaginaire, c'est d'abord le rire, salutaire selon Rabelais, très bon pour la santé. On y rit aux dépens des fameux médecins de Molière, imposteurs et prétentieux, et surtout tellement ridicules, eux aussi. On y rit aussi aux dépens d'Argan, hypochondriaque, obsédé par une maladie qu'il n'a pas, et qui empoisonne tout le monde avec son angoisse. Mais dans cette pièce faussement légère, ou pas uniquement, il est aussi question de vie et de mort. La vie, c'est Toinette qui en est la gardienne. La mort, c'est Béline qui en incarne le danger. Plus qu'une simple affaire de chaise percée, la rétention est donc une pathologie existentielle à prendre très au sérieux. En réalité, Argan est-il vraiment malade? Mais non, vous l'a déjà dit, c'est le malade imaginaire de Molière. Il prétend l'être, et si personne n'est dupe, certains ont intérêt à le conforter dans son délire. Tandis que d'autres tentent de déplacer du foie au poumon son point de fixation. Au poumon, bah oui, pour qu'il respire la vie. Et pour vider le fond du sac. Quel sac? On ne sait pas très bien. Une chose est sûre, ce ne sont ni les purges, ni les lavements de Monsieur Purgon qui régleront le problème. Car si Argan feint constamment, il ne joue pas. Il souffre bel et bien, mais d'une autre maladie. Il est malade de lui-même, enfermé dans sa vision, son imaginaire. Malade de sa folie, de sa monomanie, coincé dedans. Scatologie et psychiatrie vont de pair chez cet homme qui somatise. Un seul remède, dès lors, l'amour et la comédie, pour accéder à l'autre scène, celle de son inconscient, dirait aujourd'hui un psychanalyste. Le théâtre est une médecine alternative, n'est-ce pas? Voyons voir si avec Argan, ça marche aussi. Aujourd'hui, dans En français dans le texte, le malade imaginaire de Molière, d'après une mise en scène du Suisse, Claude Stratz, décédé en 2007 alors que la pièce se jouait à la Comédie française. En hommage, la pièce a été enregistrée en studio par France Culture, réalisée par Christine Bernard-Sugy, avec Alain Pralon dans le rôle d'Argan, Catherine Yégel dans celui de Toinette et Julie Sicard dans le rôle d'Angélique. Acte 1, scène 1.
Et 2 font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e. Un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de M. Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. plus une potion cordiale et préservative, composée avec 12 grains de bézoard, sirop de limon et grenade et autres, suivant l'ordonnance. 5 livres. Oh, monsieur Florent Toudoux, s'il vous plaît. Si vous ennuisez comme ça, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 40 sols. Trois et deux font 5. Et 5 font 10. Et 10 font 20. 63 livres. 4 sols. 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Allons. Qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent pas? Et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drolin ? Drolin ? Drolin ? Point d'affaire. Drolin ! Drolin ! Drolin ! Ils sont sourds ? Toinette ! Drolin ! Drolin ! Drolin ! Tout comme si je ne sonnais pas. Chienne ! Coquine ! Drolin ! Drolin ! Drolin ! J'en rage. Drolin ! Drolin ! Drolin ! Carogne ! À tous les diables ! Est-il possible qu'on laisse comme ça un pauvre malade tout seul ? Drolin, Drolin, Drolin. Voilà qui est pitoyable. Drolin. Drolin, Drolin. Oh mon Dieu. Ils me laisseront ici mourir. Drolin. Drolin. Drolin.
Extrait du Malade imaginaire de Molière sur une mise en scène de Claude Stratz. Patrick Laudet, inspecteur général de l'éducation nationale, qui a préparé cette analyse de texte pour vous, attire votre attention sur cette étrange ouverture. La pièce, en effet, s'ouvre sur un monologue. C'est rare et osé de la part de l'auteur, car il est plus compliqué de poser le décor dans la bouche d'une seule personne que dans un dialogue. Mais ce n'est pas ici le but recherché, en fait. Plus qu'une scène d'exposition, il semblerait que Molière ait choisi d'ouvrir avec cet homme totalement enfermé dans son discours pour donner à voir ce qui est véritablement en jeu. D'emblée, la maladie d'Argan s'affiche. Derrière le monologue, un règlement de compte d'apothicaire. Seul en scène, un homme avec sa facture, dont il énumère le détail dans une grande surenchère lexicale assez comique. Bézoard et sirop de limon et grenade, voilà une ordonnance qui porte le verbe haut. Et le malade en a pour son argent, même s'il ne le lâche pas si facilement. Le spectateur entre comme par réfraction dans le théâtre mental d'Argan, dont il entend la solitude, dont il perçoit la folie, un corps empêtré, quasi pétrifié, assigné. Argan en appelle à la vie, qu'on m'ôte tout ceci, un appel à l'aide qui laisse entrevoir un aveu touchant. Il n'y a personne, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Drolin, Drolin, Drelin. C'est un classique. Ici, le maître en appelle au valet. Le valet, évidemment, n'est pas là quand on a besoin de lui. Et le maître s'en agace. Mais ici, Molière le porte à un niveau rare, quasi métaphysique. Cette sonnette, qui retentit à la folie, accessoire majeur et point d'orgue de la scène, devient elle-même un quasi-personnage. Son bruit même n'y suffit plus, il faut le redoubler de mots, comiques et pathétiques à la fois, et qui donnent beaucoup à entendre. Drelin, 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 Argan a terriblement besoin d'être malade, parce qu'il a terriblement besoin d'être soigné, comme il a terriblement besoin d'être aimé. Drelin, 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 ils me laisseront mourir ici. Et cette sonnette, là, comme il le dit, ne fait jamais assez de bruit. Chez qui ne sonne-t-elle pas, tôt ou tard, cette sonnette, en fait? C'est donc de cela qu'il s'agit. Mourir, l'affaire de toute une vie. En français dans le texte, aujourd'hui, vous écoutez Le malade imaginaire de Molière, acte 1, toujours, scène 2.
Ils me laisseront ici mourir. Drelin. Drelin. Drelin.
On y va.
Oh chienne. Oh carogne.
Diantre soit faite, votre impatience, vous pressez si fort les personnes que je me suis donné un grand coup de la tête contre la carte d'un volet.
Oh, très très. Ah. Il y a...
Ah.
Il y a une...
Ah.
Tu m'as laissé! Ah. Mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle!
Ça monte, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait!
Tu m'as fait égosiller! Carogne!
Vous m'avez fait, vous, casser la tête, l'un vaut bien l'autre, quitte à quitte, si vous voulez.
Quoi? Coquine?
Si vous querellez, je pleurerai!
Me laisser, traître!
Ah.
Chienne, tu me.
Ah.
Quoi? Il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller.
Querellez, tout votre sou, je le veux bien!
Tu m'en empêches, chienne! En m'interrompant à tout coup!
Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer, chacun le sien, c'est pas trop!
Ah. Ah. Alors, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine.
Ah!
Ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré?
Votre lavement?
Oui! Ai-je bien fait de la bile?
Ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là. C'est à monsieur Florent y mettre le nez, puisqu'il en a le profit.
Qu'on ait soin de me tenir un bouillon prêt pour l'autre que je dois tantôt prendre.
Ce monsieur Florent-là... Et ce monsieur Burgon s'égaye bien sur votre corps, ils ont en vous une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tendre remède.
Tenez-vous, ignorante. Ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine.
En français, dans le texte, ils lisent ou jouent, les comédiens vous écoutez, et nous, on analyse pour vous avec le concours de l'Éducation nationale.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
Comment comprendre justement cette deuxième scène où Toinette, fantastique Catherine Yeagel dans la pièce, fait son apparition? Comment comprendre cette deuxième scène dans la structure de la pièce de Molière? Arrive enfin Toinette, elle connaît donc son bourgeois et l'obsession qui l'anime. Pas si malade que ça, sinon de cette manie qui consiste à se donner le moins possible et à tout ramener à soi. À la différence de la rouée Béline qui, elle, en rajoute, sur tous les coussins dans le fauteuil d'ailleurs, Toinette ne répond pas trop vite, diffère son arrivée, elle le laisse manquer, désirer. Elle entre dans son jeu sans en rajouter, elle fait un pas de côté, elle impose l'écart. Servante, Mais pas que, elle a des accointances avec Polichinelle et le théâtre. Elle est aussi très bonne comédienne, Toinette. Ses lettres de noblesse se lisent d'ailleurs d'emblée dans la didascalie qui accompagne son entrée en scène. Toinette, dit le texte, faisant semblant de s'être cogné la tête. Elle joue donc à faire semblant. Un jeu qui n'est jamais narcissique parce qu'il est adressé. Elle tente aussi de ne pas se laisser piéger par la tyrannie infantile d'Argan, de décentrer son attention, de le sensibiliser à d'autres peines que la sienne. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Dans quelques minutes, la suite de notre analyse du malade imaginaire de Molière, commentée par les experts de l'éducation nationale. Mais d'abord, on écoute les scènes 3, 4 et 5 de l'acte 1, sur une mise en scène de Claude Stratz, pour et avec les comédiens de la Comédie française, c'est-à-dire Alain Pralon dans le rôle d'Argan, Catherine Yégel dans celui de Toinette et Julie Sicard en Angélique.
Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose.
La voici qui vient d'elle-même, elle a deviné votre pensée.
Approchez Angélique, vous venez à propos, je voulais vous parler.
Me voilà prête à vous ouïr.
Hop ! Attendez ! Donnez-moi mon bâton, je m'en vais revenir tout à l'heure.
Oh. 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 Mais allez vite, monsieur. Oh. Oh. Allez. Oh. Oh. Monsieur Florent me donne des affaires.
Toinette.
Quoi ?
Regarde-moi, elle peut.
Bien, je vous regarde.
Toinette.
Mais quoi, Toinette ?
Ne devines-tu point de quoi je veux parler ?
Je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure.
Puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir ? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours ?
Vous ne m'en donnez pas le temps. Et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir.
Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, Toinette, les sentiments que j'ai pour lui ?
Je les garde.
Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions ?
Je ne dis pas cela.
Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi ?
À Dieu ne plaise.
Dis-moi un peu, ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel ? Quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance ?
Oui.
Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense, sans me connaître, est tout à fait d'un honnête homme ?
Oui.
Qu'on ne peut pas en user plus généreusement ?
D'accord.
Et qu'il fit tout cela de la meilleure grâce du monde ?
Oh oui.
Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne ?
Oh, bon, assurément.
Qu'il a l'air le meilleur du monde.
Sans doute.
Que ses discours, comme ses actions, ont quelque chose de noble.
Cela est sûr.
Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit.
Il est vrai.
Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contrainte où l'on me tient, qui bouge tout commerce, aux doux empressements de cette mutuelle ardeur que le ciel nous inspire.
Ah, vous avez raison.
Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit ?
Mais ces choses-là, parfois, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. J'ai vu de grands comédiens là-dessus.
Oh, Toinette, que dis-tu là ? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il bien possible qu'il ne me dit pas vrai ?
En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où il vous écrivit hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une prompte voie à vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non. C'en sera là la bonne preuve.
Oh, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme.
Voilà votre père qui revient.
Ah ça, ma fille. Je vais vous dire une nouvelle où peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce là ? Vous voyez ? Cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier.
Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner.
Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue, et je vous ai promise.
C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés.
Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela.
La bonne bête a ses raisons.
Elle ne voulait point consentir à ce mariage, mais je l'ai emportée. Et ma parole est donnée.
Ah, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés.
En vérité, je vous sais bon gré de cela. Voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie.
Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi?
Assurément, mon père.
Comment? L'as-tu vu?
Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue nous avons prise l'un pour l'autre.
Ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon. Bien fait.
Oui, mon père.
De belle taille, hein?
Sans doute.
Agréable de sa personne.
Assurément.
De bonne physionomie.
Très bonne.
Sage et bien né.
Tout à fait.
Fort honnête.
Le plus honnête du monde.
Qui parle bien latin et grec.
C'est ce que je ne sais pas.
Et qui sera reçu médecin dans 3 jours.
Lui, mon père.
Ah oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit?
Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous?
Monsieur Purgon.
Est-ce que Monsieur Purgon le connaît?
La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu.
Cléante, neveu de Monsieur Purgon?
Quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage.
Eh oui.
Eh ben, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafarus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafarus. Et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Qu'est-ce? Bon, voilà, tout est bobby.
C'est mon père que... Je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre.
Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin?
Oui. La pédante que tu es!
Mon Dieu, Toudou, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage?
Ma raison est que me voyant infirme et malade, comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances.
Eh bien, voilà à dire une raison. Il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais, monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade?
Si je suis malade! Si je suis malade! Impudente!
Bien, oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord.
Ah.
Et plus malade que vous ne pensez, voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin.
C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père.
Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil?
Et quel est-il, ce conseil?
De ne point songer à ce mariage-là.
La raison?
La raison, c'est que votre fille n'y consentira point.
Elle n'y consentira point?
Non.
Ma fille?
Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafarus, ni de son fils Thomas Diafarus, ni de tous les Diafarus du monde.
J'en ai affaire, moi! Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense, monsieur Diafarus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, M. Purgon, qui n'a ni femme, ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et M. Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente.
Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche.
8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père.
Monsieur, tout cela est bien et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari, et elle n'est point faite pour être Madame Diafarus.
Et je veux, moi, que cela soit.
Eh fi, dites pas ça.
Comment que je ne dise pas ça?
Mais non.
Et pourquoi ne le dirais-je pas?
Ne vous songez pas à ce que vous dites.
On dira ce qu'on voudra. Mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée.
Non, je suis sûr qu'elle ne le fera pas.
Je l'y forcerai bien.
Elle ne le fera pas, vous dis-je.
Elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent.
Vous?
Moi.
Bon.
Comment? Bon.
Maman, vous la mettrez pas dans un couvent?
Je la mettrai pas dans un couvent?
Non.
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 Ouais. Voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent, si je veux.
Oh non, vous dis-je.
Qui m'en empêchera ?
Vous-même.
Moi ?
Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là.
Je l'aurai.
Vous moquez.
Je ne me moque point.
La tendresse paternelle vous prendra.
Elle ne me prendra point.
Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, mon petit papa mignon prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher.
Tout ça ne fera rien.
Oui.
Je vous dis que je n'en démordrai point.
Ah, bagatelle.
Faut point dire bagatelle.
Monsieur, je vous connais, vous êtes bon, naturellement.
Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux.
Doucement, monsieur. Vous songez pas que vous êtes malade?
Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.
Moi, je lui défends absolument d'en faire rien.
Où est-ce que nous sommes, et qu'elle nous glace cela, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître?
Votre maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de redresser.
Oh, insolente! Il faut que je t'assomme.
Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer.
Bien. Bien, que je t'apprenne à parler.
Je m'intéresse comme je dois à ne vous point vous laisser faire de folie.
Ah, chienne,
non. Je ne consentirai jamais à ce mariage.
Panda,
je veux pouvoir qu'elle épouse votre tomate.
Je vais faire du
carogne. Et elle m'obéira plutôt que vous.
Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là.
Et mon père, ne vous faites point malade.
Si tu me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction.
Je la déshériterai si elle vous obéit.
Oh, je n'en puis plus. Voilà pour me faire mourir.
Le malade imaginaire de Molière, c'est en français dans le texte jusqu'à 18h. Les scènes 3 et 4... et 5 d'ailleurs, que vous venez d'entendre, réintroduisent l'un des motifs traditionnels de la comédie, celui du mariage contrarié. Dans l'échange complice entre Angélique et Toinette, à la scène 4, on apprend l'existence du beau Cléante, et avec un effet miroir, on voit ce que le discours amoureux de la jeune fille a lui aussi d'enfermant et d'obsessionnel. Toinette se moque avec tendresse pour faire entendre l'excès naïf et plein d'illusions de la parole amoureuse. Toinette qui en a vu d'autres, « J'ai vu de grands comédiens là-dessus, dit-elle, et s'y connaît en grimaces, elle n'est pas dupe, et c'est bien que les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. » Scène 5 arrive le quiproquo, c'est presque un passage obligé. Le spectateur qui tient tous les fils voit s'empêtrer des interlocuteurs qui ne parlent pas de la même chose. Croyant la chose faite, avec son Cléante, la joie d'Angélique se libère imprudemment et le vieux père, de son côté, étonné d'une docilité aussi vite acquise, s'en félicite un peu prématurément. Étiré par l'auteur sur plusieurs répliques, le quiproquo finit par éclater dans un grand malentendu. Tout un jeu des comédiens et de leur mimique est ici possible, quand on en vient au fil des répliques à imaginer des parentés incongrues, Purgon, oncle de Cléante, et des vocations inattendues, Cléante par exemple en médecin. Mais derrière cette figure imposée du quiproquo dans la comédie se laisse toujours deviner chez Molière une attention plus subtile au désir et à ses ambiguïtés. La situation comme le discours tourne en boucle, on n'en sort pas littéralement. « Je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances, » dit Argan. « Donner sa fille pour apprendre à donner sa vie, mais voilà qu'on retombe dans les consultations et les ordonnances encore et toujours. » Bilan. En 5 scènes, Molière a exposé son propos et tressé dans un unique enjeu deux questions qui sont intimement liées. Ce mariage avec Cléante se fera-t-il? Et Argan guérira-t-il à temps pour le permettre? La vie et la mort s'affrontent et la maladie de l'imaginaire peut faire plus de mal qu'il n'y paraît. Toinette, avec le théâtre comme seule pharmacopée, s'emploie, elle, à faire bouger les choses, à faire que ça aille bien, que ça aille mieux. Comment contenir les délires d'Argan? Par quoi passera la guérison? À suivre dans l'acte 2 du Malade imaginaire de Molière. Alors tous à vos livres, ou, miracle de cette saison 2020-2021, cette pièce de Molière va être reprise dans la mise en scène de Claude Stratz, entendue aujourd'hui, du 30 octobre au 3 janvier, à la Comédie-Française de Paris, avec Guillaume Gallienne dans le rôle titre, Christian Heck, Marina Hans, Denis Podalydès et encore Julie Sicard, un superbe casting à ne pas manquer. C'était le malade imaginaire de Molière. Merci beaucoup aux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, Patrick Laudet, qui a préparé avec soin cette analyse, et Catherine Mottet pour en souligner les curiosités grammaticales. En français dans le texte, continue avec la dictée de Rachid Santaki et nos invités, encore aussi mystérieux que les accords du participe passé. Munissez-vous d'ici là d'un papier, d'un stylo. On se retrouve dans quelques instants. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, sachez-le, nous retrouver en vidéo sur le Facebook Live de France Culture.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie.
L'hommage de Grand Corps Malade avec ce titre, mesdames, et l'album éponyme dans les bacs ce mois-ci. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration, cette tentative honnête de réparation.
France Culture, en français dans le texte. La dictée de Rachid Santaki.
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Voyons, mon enfant, faites un effort. Était hunt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Aura-t-il l'articulation aussi fluide et légère que Fernandel dans Topaz de Marcel Pagnol? Rachid Santaki, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes notre monsieur dictée géante. Aujourd'hui, un Balzac, quelques lignes de...
La peau de chagrin. Du coup, vous allez pouvoir retrouver cet auteur boulimique. Et je n'ai pas dévoilé le texte lors de nos échanges.
De vos échanges avec qui? Avec
Alexis. Alexis.
Eh oui. Il s'appelle Alexis Broca du magazine Lire, rédacteur en chef adjoint du magazine Lire, magazine littéraire, parce que les deux ont fusionné. Notre partenaire qui sort cette semaine un hors-série, 5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes. On va voir avec vous si ça a marché. Vous allez tout réviser, hein, et puis voilà, comme ça, vous voulez faire de nous des petits génies de l'orthographe.
Voilà.
C'est un peu l'idée de ce hors-série.
Je ne crois pas qu'il puisse exister de génie absolu de l'orthographe, dans le sens où la langue française, et votre émission le montre bien, est si riche et si complexe, qu'elle donne à chacun l'occasion de faire des fautes magnifiques. Je relisais récemment la correspondance de Rimbaud, et même Rimbaud fait des fautes. Et c'est à partir de cette réflexion, en fait, qu'effectivement, on a fait ce hors-série, 5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes. Voilà, grâce à lui, vous saurez qu'on est toujours solidaires des uns des autres. Vous ne télécommanderez plus votre télévision à distance. Vous saurez qu'un magasin est bien achalandé, non pas parce qu'il a de nombreuses marchandises, comme je le croyais jusqu'alors, mais parce qu'il a de nombreux chalands, c'est-à-dire de nombreux clients. Et vous saurez aussi, en lisant le chapitre sur les expressions toutes faites, qu'eh bien les bisounours en ont marre que nous accusions mutuellement un autre clonasme, de vivre dans leur monde. Voilà. Donc, pitié pour les bisounours, nous ne vivons plus dans un monde de bisounours.
Alors, comme vous, Alexis Broca, comme vous, auditeur de France Culture, prêt à prendre prendre note, notre deuxième invité, le réalisateur et scénariste Éric Rochant. Bonjour.
Bonjour.
Showrunner, en français dans le texte, de la série Le Bureau des Légendes, diffusée sur Canal. C'est un peu risqué, non, de vous aventurer ici,
même.
Dans ce studio.
Je ne sais pas ce que je fais là. D'autant plus que quand on écrit un scénario, en général, c'est sur un traitement de texte qui... Mais en fait, il y a des gens qui arrivent quand même à faire des fautes. C'est ça qui est extraordinaire.
Qui corrigent.
Donc, voilà.
Ouais. Non, là, y aura
malgré la correction automatique.
Ça fait combien d'années que vous n'avez pas utilisé un stylo pour
noter? Non, j'utilise des stylos quand même pour prendre des notes. Mais c'est vrai que là, c'est écrire sur des lignes, par exemple, ça va être un peu bizarre.
Mais vous avez révisé tout votre Balzac, de toute façon, avant d'écrire vos séries déjà, parce qu'il était lui-même un très bon scénariste, Balzac. Et est-ce qu'il maîtrisait l'art du suspense, du cliffhanger en français?
Oh oui, mais en tout cas, moi, les souvenirs que j'ai de Balzac, j'ai énormément accroché, comme on dit maintenant.
Donc, comment on va procéder, Monsieur Santaki?
Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Je vais effectuer deux lectures du texte, donc un extrait de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Première lecture juste pour vous familiariser avec le texte et identifier les éventuelles difficultés. Et ensuite, nous passerons aux choses sérieuses. Cela dit, on va parler d'erreurs et non pas de fautes et nous sommes là pour nous amuser. Donc, vous pencherez sur vos copies et vous passerez à l'action. Donc voilà.
Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, voilà. Avec vous, Maître Santaki. Une seconde pour noter et une troisième, si vous le voulez bien aujourd'hui, pour corriger ensemble ce texte et en souligner les points de difficulté. Un mot, pourquoi ce choix de texte? Pourquoi ce Balzac-là? Qu'est-ce qui a guidé votre choix?
Du coup, ça a été. J'aime beaucoup les ouvrages de Balzac et ensuite j'ai pris le livre qui l'a propulsé, le titre qui lui a permis de devenir cet ogre de la littérature.
Très bien, on entre maintenant avec vous dans l'univers de Balzac, Rachid Santaki. À vous, messieurs, mesdames, pour ceux qui sont de l'autre côté du poste, on ouvre d'abord les oreilles.
Devenu la proie des harpies du Châtelet, c'est doux. Les esclaves matériels allaient donc être enlevés par des recors et brutalement jetés sur la place. Ah ! Ma dépouille était encore moi-même. La sonnette de mon appartement retentissait dans mon cœur. Elle me frappait où l'on doit frapper les rois, à la tête. Fin de la dictée pour les écoliers. C'était un martyr sans le ciel pour récompense. Oui, pour un homme généreux, une dette est l'enfer. Mais l'enfer avec des huissiers et des agents d'affaires... Une dette impayée et la bassesse, un commencement de friponnerie, épique tout cela, un mensonge. Elle ébauche des crimes, elle assemble les madriers de l'échafaud. Mes lettres de change furent protestées. 3 jours après, je les payais. Voici comment, point final.
Ça sonne bien. Vous n'oubliez pas de faire les liaisons, Rachid Santaki. Cette fois, vous en avez oublié une la semaine dernière. On a eu des mails de contestation et de protestation parce que du coup, ça a engendré des fautes. Voilà. Donc là, aujourd'hui, pas d'oubli. Est-ce que vous êtes prêt? Non? Une question, Éric Rochant, avant de commencer?
Non, mais je vois que c'est un enfer.
Ça va être l'enfer.
Mais vous m'avez dit que c'était facile. Non.
C'était pour vous appâter. Appâter le chaland, comment on disait à l'instant, Alexis.
Vous avez remarquablement appâté le chaland.
Voilà
piégé.
Vous voilà prêts l'un et l'autre. Eh bien, on commence. Rachid Santaki, c'était à vous.
Très belle et bonne dictée à nos invités.
Merci.
Et aux auditeurs. Devenu la proie des harpies. Devenu la proie des harpies du Châtelet, virgule. Devenu la proie des harpies du Châtelet, virgule. Ces douze esclaves matériels allaient donc être enlevés par des recors, virgule. Ces 12 esclaves matériels allaient donc être enlevés par des recors, virgule. Et brutalement jetés sur la place, point. Et brutalement jetés sur la place, point.
C'est normal qu'on comprenne rien, parce qu'on écrit.
Vous me déconcentrez sur Auchan. Je continue.
C'est dans le record.
Et brutalement jeté sur la place, point. Ah !
Ah !
Exclamation, point d'exclamation. Ah ! Point d'exclamation. Ma dépouille. Ah, point d'exclamation. Ma dépouille était encore moi-même. Point. Ah, point d'exclamation. Ma dépouille était encore moi-même. Point.
Vous n'avez pas fait une faute, là, vous-même, Rachid Santaki, en retranscrivant le texte, non,
non, non, non,
non. Non, non. Non, donc il n'y a pas de faute.
Olivier, un peu de sérieux, s'il vous plaît. La sonnette.
Aïe.
La sonnette.
Qui a dit aïe ?
Moi, j'avoue.
La sonnette de mon appartement.
Vous n'avez pas dit de mon appartement.
La sonnette de mon appartement.
Merci.
Retentissait dans mon cœur, virgule. La sonnette de mon appartement retentissait dans mon cœur, virgule. Elle me frappait. La sonnette de mon appartement retentissait dans mon cœur, virgule. Elle me frappait où l'on doit frapper des... Les rois, pardon. Elle me frappait où l'on doit frapper les rois, virgule. À la tête, point. Elle me frappait où l'on doit frapper les rois, virgule, à la tête, point. Fin de la dictée pour les écoliers.
Et c'est là que ça se complique, on va aller un peu plus vite.
C'était un martyr, virgule. C'était un martyr, virgule. C'était un martyr, virgule. Sans le ciel, pour récompense, point. C'était un martyr, virgule, sans le ciel, pour récompense, point. Oui, virgule. Oui, virgule. Pour un homme généreux, virgule. Pour un homme généreux, virgule. Oui, virgule, pour un homme généreux, virgule. Une dette est l'enfer, virgule. Une dette est l'enfer, virgule. Mais l'enfer, avec des huissiers, mais l'enfer, avec des huissiers et des agents d'affaires, point. Mais l'enfer, avec des huissiers et des agents d'affaires, point. Une dette impayée. Une dette impayée. Une dette impayée. Et la bassesse, virgule. Une dette impayée. Et la bassesse, virgule. Un commencement. Une dette impayée. Et la bassesse, virgule. Un commencement de friponnerie, virgule. Un commencement de friponnerie, virgule. Un commencement de friponnerie, virgule. Et pique tout cela, virgule. Et pique tout. Et pique tout cela, virgule.
Ah, je comprends, je suis mais largué. Et tout, je ne sais même pas si c'est en un mot ou en trois.
Que tout cela, virgule.
En tout cas, ce n'est pas le pi d'une vache. Hein. Et pique tout.
Pique tout cela, virgule. Un mensonge. D'accord.
Non, pas de gros mots. Oh
pis que tout.
Décrochant.
Cela, virgule. Un mensonge, point d'exclamation. Un mensonge, point d'exclamation. C'est la dernière ligne droite. Accrochez-vous. Elle ébauche des crimes, virgule. Elle ébauche des crimes, virgule. Elle ébauche des crimes, virgule. Elle assemble les madriers. Elle assemble les madriers de l'échafaud, point. Elle assemble les madriers de l'échafaud, point. De l'échafaud, point. Mes lettres de change. Mes lettres de change. Mes lettres de change furent protestées, point. Mes lettres de change furent protestées, point.
Point final.
Presque. Furent protestées, point. Trois jours après, je les payais, point virgule. Trois jours après, je les payais, point virgule. Voici comment, point final. Je répète. Trois jours après, je les payais, point virgule. Voici comment, point final.
Voici. Trois jours après, je les payais.
Je les payais. Point virgule. Voici comment. Point.
Ça a été ?
Non.
Non ? Niveau de difficulté ? Vous étiez bons en français à l'école, tous les deux, Éric Rochant, Alexis Broca ?
Ça allait.
La dictée ?
Bah, j'ai fait scientifique, hein, donc français.
Pour justement éliminer les dictées le plus
possible. Non, oui, la dictée, oui. Non.
C'était pas un plaisir. Non. Pour vous, Alexis Broca.
J'étais forcément un plutôt bon rédaction, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que je percevais la langue d'un point de vue empirique. Et en revanche, j'étais complètement nul en grammaire. C'est-à-dire que j'avais une orthographe à peu près correcte parce que je lisais beaucoup. J'étais un boulimique de lecture. Mais j'étais incapable de dire comment la langue marchait. C'était purement intuitif.
Très bien. Alors là, on va faire une troisième lecture un peu rapide avec vous, Rachid Santaki. Je vous propose de lire... et de vous alerter sur ce qui pourrait être des points de difficulté. Vous nous dites les vôtres, passage Alexis Broca et Rochon.
D'accord.
Vous ne le savez pas.
Si, j'en suis sûr.
Voilà. Alors, est-ce que les auditeurs sont avec nous ? On y va. Devenu, est-ce la proie des harpies du Châtelet ? Harpies, comment vous l'avez écrit, Éric Rochon ?
H-A-R-P-I-E-S.
Ouais.
Bravo.
Alexis Broca, ensuite.
Là, ça allait, j'ai eu du mal avec l'air corps.
Très bien.
Alors, on y va, on continue. Les harpies, Rachid ?
Du coup, non,
qu'est-ce que c'est ?
Sans figurer, ceux qui sont avides d'un bien d'autrui ou qui sont âpres au gain.
Ces 12 esclaves matériels avec ou sans S ? Eric ?
Ah, j'ai mis un S, moi.
Très bien. Merci. Allaient, A-2-L-A-I-E-N-T, donc être enlevés S par des records. Alors, ce record, Alexis, qu'est-ce qui vous a posé question ? Ça n'a rien à voir, disons-le, avec le record d'une compétition sportive.
Oui, voilà. C'est ça qui m'a posé un vrai problème. Et,
première faute, alors.
C'est vrai que c'était compliqué d'être enlevé par des records sportifs. Du coup, j'ai eu tendance à penser au corps des cerfs et à l'écrire un peu pareil.
C'est-à-dire
les bois des cerfs. J'ai écrit R-E-C-O-R-S. Je suis pas sûr du tout de moi.
Voilà, des records, retors, et vous ?
Ah bah, j'ai fait la faute, moi. J'étais des records sportifs.
Records sportifs.
Je comprenais rien au texte. Donc.
Alors, qu'est-ce que c'est des records ?
Alors, ce sont les personnes qui assistent les huissiers, donc un nom masculin.
Mm-hmm. Très bien. Alors, enlevé par des records, virgule, et brutalement jeté S sur la place, point. Ah ! Point d'exclamation, ma dépouille était encore moi-même. Qui a mis une majuscule à ma ?
Moi.
Ouais.
Alexis Broca, Éric Rochand, deux majuscules. Eh bien, il n'en fallait pas.
Vous n'avez pas commis d'erreur.
Ouais. Rachid Santaki sur cette retranscription.
Alors, sur les ponctuations, on peut prendre la majuscule. Là, elle n'était pas dans le texte. Donc, ça, on va dire que c'est discutable.
Alors, logiquement, la majuscule après un point d'exclamation, c'est la règle, sauf si le point d'exclamation ne finit pas la phrase, qui est le cas là, puisque c'est une interjection à O. Ma dépouille est encore moi-même, donc pas de majuscule. Dépouille, D-E-P-O-U-I-2-L-E. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? La sonnette de mon appartement. Sonnette, vous avez sonné à ce moment-là. Écoutez,
je l'ai doté de 2 N et de 2 T, et avec un peu d'hésitation, j'avoue.
Sur les N ou sur les T ?
Sur les T.
Éric Rochon ?
Pareil.
Mais vous avez mis 2 N de T.
Oui.
C'était parfait. De mon appartement retentissait à IT dans mon cœur, virgule, elle me frappait de P à IT, où l'on doit frapper les rois, virgule, à la tête. Point. C'était un martyr. Martyr ? Tout va
sans
bien.
Sans E, personnellement.
Voilà, avec un Y et sans E.
Et là, il y a un E dans le texte.
Et hop.
Ah.
Faute.
Et oui, peut-être qu'un martyr, en effet, c'est la personne qui a subi le martyr, et peut-être qu'un martyr avec un E, je suis pas sûr de moi, mais c'est peut-être la scène du martyr.
C'est tout juste, c'est exactement juste, ça. Ça.
Voilà,
exactement.
Les vieux cours d'éducation.
Alexis Broca, bravo.
Aïe, aïe, aïe.
C'était un martyr, vous avez séché le caté, Éric Rochon, visiblement. Ouais.
Ça m'étonne pas.
C'était un martyr, virgule, sans le ciel pour récompense. Récompense, R-E-C-O-M-P-E-N-S-E. Oui, pour un homme généreux, une dette est l'enfer. Et cette phrase est quand même juste magnifique, non? Pour un homme généreux, une dette est l'enfer. C'est presque le début d'une longue histoire.
C'est presque un autoportrait de Balzac, si j'ose dire, qu'il a essayé de dépenser toute sa vie et de courir après l'argent tout en gagnant beaucoup.
Mais l'enfer, avec des huissiers, H-U-I-2-S-I-E-R-S, et des agents d'affaires. Une dette impayée, Rachid Santaki, c'est féminin, I-M-P-A-Y-E, et la bassesse, 2x2-S, un commencement de friponnerie. Alors on met des P-2, on met des N-2.
Alors moi j'ai mis un P-2-N.
Pareil, un P-2-N.
Bravo.
Bravo. Friponnerie.
Friponnerie, nom féminin, et l'action de fripon.
Et voilà. Et pis que tout cela, alors on y va.
P.I.S. que tout cela.
Voilà.
Vous avez été aidé, hein, pour le coup.
Non, pas du tout, mais franchement, j'ai eu du mal. J'ai commencé, il y a une rature, j'ai commencé par épique tout, comme un pique tout.
Tout cela. Vu le contexte, on pouvait...
Voilà, oui, alors, voilà.
Mais c'est après, c'est la durée, c'est après, c'est j'ai compris ce que c'était.
Alors, épique tout cela, un mensonge. Elle ébauche des crimes, elle assemble des madriers de l'échafaud. Qu'est-ce que des madriers?
Ce sont des poutres en bois, je crois, qui servent à consolider un ouvrage d'architecture.
Vous l'écrivez comment sur la fin?
Avec ER, et là il y a un S parce qu'il y en a plusieurs.
Oui, échafaud, ça, le cinéphile doit savoir quand même, non?
Bah, j'ai mis deux F, AUD.
Ah, je ne suis pas sûr qu'il y ait deux F.
Non.
Il y a AUD, mais...
Un F.
Je savais que c'était une de mes trois fautes. Voilà. En fait, ça fait déjà quatre.
Mes lettres de change, on est presque à la fin, furent protestées. Alors, furent auxiliaire être, on accorde donc avec mes lettres de change, Rachid Santaki, je parle sous votre gouverne, E-E-S. Trois jours après, je les payais. Je les payais, tu les payas. Donc, A-I, on n'a pas mis de S.
Non, A-I.
A-I, pas c'est simple.
Mais vous auriez dû payer. Vous auriez dû dire payer. Ouais. Je les payais.
Je les payais.
Et pas les payais.
Ah, qui a dit payer?
Ça, c'est mon accent.
Non, mais c'est ça, oui.
Bon, pas de glottophobie ici.
Il me semble, non?
Voilà. Point virgule, donc pas de majuscule, voici, après le point virgule, voici comment, point. Le texte est en ligne sur franceculture.fr à la page de la dictée géante, de la grande dictée de Rachid Santaki. Vous pouvez aller relire votre copie et vérifier si j'ai oublié de vous décrire certains mots. Rachid Santaki, pas facile celle-là, hein?
Je trouve qu'elle est quand même facile. Après, il y avait les 3-4 mots pièges, en général, voilà. Record, je pense que c'était compliqué pour Record. Madrier, a priori, Alexis savait ce que c'était, mais voilà. Et le passé simple aussi à la fin, avec le verbe payer. Mais sinon, je trouve qu'elle était assez accessible. Après, c'est bien de mettre en difficulté sur 3-4 mots.
Voilà, on avait nous-mêmes buté sur deux mots la semaine dernière de cette dictée du Au bonheur des dames, de Zola. Et notamment sur le parapluie à Godet. Alors, Alexis Broca, c'est tout, visiblement. Qu'est-ce que c'est qu'un parapluie à Godet?
Non, écoutez, j'ai vérifié. Non, j'ai écouté l'émission la semaine dernière et en effet, j'étais très perplexe devant ce parapluie à Godet. Je suis pas sûr qu'il en existe des exemples. Je sais que le Godet était au masculin. Donc, il n'y avait qu'un seul godet pour récupérer la pluie. Je me demande bien à quel usage. En effet, donc j'aurais été bien désemparé face à votre parapluie à godet. J'en aurais mis plusieurs, sans doute.
Je l'étais aussi. Et en fait, le godet, c'est la bague au-dessus du manche.
Ah, d'accord.
Donc, on a des auditeurs qui ont partagé l'image et je suis allé chercher. Donc, voilà. Après, là où j'étais vraiment embêté, c'était le zanella. Quel type de tissu?
C'est très compliqué. Oui, voilà. En effet.
Et donc, c'est un tissu d'origine italienne en coton léger, souvent utilisé pour les doublures.
D'accord.
Voilà.
Non, ce sont de vieux mots que vous ne croiserez plus jamais.
Oh, je sais pas. Bah si, parce que je lis pas mal de vieux livres, donc je risque de...
Vous n'aurez plus jamais à les écrire.
Voilà, je n'aurais pas à les écrire, en effet, sans doute.
Mais c'est quand même agréable, confortable quand on écrit. Et c'est votre cas, Éric Rochon, aussi, d'avoir un peu toute cette palette, un vocabulaire plus large, de savoir... Vous trouvez pas qu'en apprenant des mots nouveaux, en apprenant aussi à les écrire, on élargit son imagination?
Ah si, mais moi, de toute façon, je suis très réac sur l'orthographe, hein. Je suis pour l'orthographe à mort, hein. Vraiment, je déteste les fautes, je vois tellement de fautes maintenant dans tous les textes, justement, écrits par des traitements de texte, dans tous les journaux, qui sont des journaux de référence, je vois tellement de fautes d'orthographe, et je me dis comment on peut faire des fautes d'orthographe avec le traitement de texte, avec la relecture, comment c'est possible? à mon avis, il n'y a pas beaucoup de relecture.
Pendant le confinement, l'un et l'autre, Alexis Broca, Éric Rochant, vous avez lu ou relu quoi?
J'ai découvert la littérature chinoise contemporaine. Et j'ai lu des chefs-d'œuvre.
C'était un clin d'œil pour au pangolin de se pencher vers la littérature chinoise ou
Non, en fait, oui, mon regard a été obligatoirement tourné vers la Chine vu la pandémie. Et du coup, je me suis dit tiens, si la littérature chinoise va parler de la Chine, et j'ai envie de connaître ce pays.
Et vous avez lu quoi?
J'ai lu Le Clou, qui est un chef-d'œuvre absolu, et oui. Je peux pas vous.
J'ai lu. C'est remarquable, en effet.
Oui. Je peux pas vous dire le nom de la.
De la jeune femme qui a écrit ça.
Qui a écrit ça. Oui. Par contre, je suis en train de finir Brother de Yu Hua, qui est aussi un chef-d'œuvre.
Et Le Clou, c'est chez Zulma.
C'est chez Zulma,
hein,
tout à fait. Ouais, c'était un gros roman qui parlait de toute la rive.
Qui est effectivement très contemporain. Et vous, Alexis Broca, vos lectures?
Alors, moi, j'ai lu beaucoup de science-fiction parce qu'on faisait un grand dossier sur la science-fiction. Et puis surtout, c'était un moyen de me projeter dans un avenir infiniment plus riant que le présent dans lequel nous étions plongés. C'était un moyen aussi de m'interroger sur la façon dont les auteurs avaient pu envisager ou pas la situation que nous vivions. Et puis, c'était une lecture optimiste parce que ça nous disait que, bien que l'humanité avait une sorte d'avenir.
Voilà. Rachid Santaghi, vous avez fait des dictées, vous, pendant le confinement?
Oui.
Vous avez ouvert cette fenêtre vers le monde?
Pendant le confinement, j'ai découvert pas mal de gens isolés. Et du coup, je faisais des lives sur Facebook qui ont réuni plusieurs milliers de personnes. C'était assez impressionnant. Donc, je suis passé du physique à la distance et c'était top. Une très belle aventure.
Alexis Broca, j'aimerais qu'on termine avec vous et une déclaration d'amour à Balzac quand même, parce que c'est un auteur qu'on étudie beaucoup,
mais
qu'on oublie parfois d'ouvrir ou de rouvrir pour le plaisir, plus tard, hors cadre scolaire.
Oui, c'est en effet dommage, il y a des choses remarquablement drôles et cruelles chez Balzac, notamment je pense au roman La Cousine Bête, où cette malheureuse vieille fille se fait dépouiller du gentil petit sculpteur qu'elle a élevé, couvé, etc. Moi, ce que j'aime chez Balzac, c'est d'avoir inventé cette façon de faire correspondre l'extérieur à l'intériorité des personnes. Comme il dit dans Gobseck, sur un personnage d'avare, on eût dit l'huître et son rocher. Et je suis très gré à Balzac d'avoir introduit force et réalisme en littérature, et notamment d'avoir introduit beaucoup de thèmes relatifs à l'argent. Et avant lui, avant d'autres, la littérature planait un petit peu au-dessus du monde, comme ça. Et c'est grâce à des auteurs comme Balzac, comme Zola aussi, qu'elle s'est reconnectée à la réalité. Et qu'elle s'est mise à la décrire dans tous ses aspects, y compris les moins nobles.
Merci beaucoup à vous, Alexis Broca. Je rappelle le titre de ce hors-série qui arrive en kiosque. Lire les Dicodores, hors-série 5 minutes par jour pour ne plus faire de fautes, tournures exaspérantes, pléonasme, anglicisme, barbarisme, solécisme, genre, voilà, vous allez mettre fin, un coup de massue sur tout ça. Et à partir de ce moment-là, nous parlerons bien, mais il faut quand même y accorder 5 minutes par jour. Vous allez rendre votre copie à Rachid Santaghi. Éric Rochant, merci mille fois. Vous travaillez en ce moment?
Oui, je travaille, oui.
Vous écrivez?
J'écris.
Vous ne nous direz pas sur quoi?
Non.
Je vous remercie mille fois d'être passé, comme ça, au Débeauté, pour participer à cette dictée géante de Rachid Santaghi. On retrouve toutes vos corrections, Rachid, sur le site de France Culture. Je rappelle que chaque samedi, autour de 17h30, on peut aussi vous retrouver sur le Facebook de France Culture pour suivre en vidéo cette session de dictée que vous menez d'une main de maître. Merci, à la semaine prochaine.
Merci, Olivia.
Merci beaucoup.
Merci, Eric.
C'était En français dans le texte, émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon. Merci beaucoup à la réalisation Media Portis Guérin, avec à la technique Adèle Caglar. Samedi prochain, les fables de La Fontaine au programme de En français dans le texte. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi, midi, pour une grande table cinéphile à l'occasion du Festival du cinéma américain de Deauville. Puis, 12h55, la grande table des idées avec l'économiste Esther Duflo.